de France Culture jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
En 1999, dans l'émission « Lieux de mémoire », Ruth Stegassi évoquait le Veldiv. Le vélodrome d'hiver de la rue Nélaton a été effacé du quartier de Grenelle en 1959, laissant la place à des immeubles. Reste donc un non-lieu de mémoire, une absence dans le paysage contenu tout entier dans un mot, Veldiv, un mot tragiquement écartelé entre deux souvenirs, irrémédiablement incompatibles. Veldiv, un seul mot pour l'expression de deux dimensions parallèles. Le lieu de la liesse populaire, du temps des six jours, et aussi de l'espérance généreuse au temps du front populaire. Et le lieu de la honte et de la douleur, lieu de mort, après les rafles de juifs dans Paris et sa banlieue, du 16 et 17 juillet 1942.
Lieu de mémoire, le Veldiv, par Ruth Stegassi et Anna Schmuck.
Eh ben mon vieux Fabre, comment vous sentez-vous ce matin?
Ben pas trop mal, ça peut marcher quoi, on a fait voilà, le cinquième jour et je peux te dire le coup.
Ah, alors voilà la petite famille.
Eh oui, vous savez, c'est le vrai doping dès que je vois la femme et la gosse.
C'est le meilleur des surhommes moraux, mon vieux Vacher, ça allez.
Dans cette rude épreuve des six jours, le coureur a besoin d'avoir des muscles solides, un bon estomac et aussi une volonté bien trempée. Après cette première nuit d'effort, nous allons examiner le sympathique coureur Choury. Comment vous sentez-vous?
Ça va très bien.
Pas trop courvaturé après la première nuit, non?
Ah non, pas encore.
Ça viendra à la troisième.
La tension est parfaite. Tout va très bien.
Alors au revoir, à demain.
C'est ça, merci.
Alors, l'appétit, ça marche?
Ça va, voyez, vous vous en rendez compte. Hein?
L'estomac est bon et c'est très bon, les oursins, pour l'estomac et en même temps pour le muscle parce que ça contient du phosphore.
Oui, voyez, je lui fais un oeil.
Allô, allô, à Piqueux, la prime de 1000 francs offerte par l'apéritif préféré des sportifs, la Suze. La Suze est l'amie de l'estomac. Allô, allô, une prime de 1000 francs de tour, prime offerte par le sympathique bonhomme. Le sympathique bonhomme en bois des galeries Barbès.
On se souvient du sport au Veldiv, les six jours cyclistes, la ferveur populaire, la boxe, le bonheur collectif. On se souvient du Veldiv de juillet 42, la rafle, les juifs entassés là, parqués avant la déportation. Le Veldiv est le lieu de deux mémoires qui se blessent l'une l'autre, discordantes, difficiles à rapprocher même dans une évocation. On se souvient de l'un ou de l'autre, exclusivement. On ne se souvient plus que le Veldiv a été détruit dans l'indifférence générale en 1959. On ne sait presque plus où il était. Est-ce qu'on peut tuer la mémoire ? Lucien Logette.
Veldiv était rue Nélaton, donc ça doit être vers le métro La Motte Piquet, Birakem, quelque chose par là. J'en ai qu'un souvenir lointain, un souvenir d'enfance. Et rue Nélaton, je me souvenais qu'on y allait par le métro aérien, donc c'était forcément sur la ligne Nation Étoile. Je me revois avec donnant la main à mon père pour aller au beau Noël de la RATP pour voir les spectacles qui nous étaient offerts par le comité d'entreprise. Spectacle pendant lequel il y avait des courses derrière grosses motos. Et c'est un souvenir absolument extraordinaire. Plus qu'un spectacle, c'est un souvenir de son. Parce que pour arriver au Valdiv, on passait sous... C'était un grand... Je me souviens d'un grand bâtiment en béton avec du métal. C'est peut-être, je n'ai jamais vérifié sur les photos. Et on passait sous les gradins. Et la piste en bois du vélodrome était juste... on passait presque sous la piste. Et je me souviens d'être arrivé plusieurs fois au moment où les grosses motos s'entraînaient. C'est-à-dire au moment où les cyclistes commençaient à tourner. Et le bruit des motos, une espèce de grondement extraordinaire qui n'a pas d'équivalent. Parce que c'était des motos 500 centimètres, des monos 500 centimètres cubes absolument extraordinaires. Et c'est un bruit qui vous prenait au ventre.
Et le lieu lui-même, l'espace, vous vous en souvenez?
Alors, je m'en souviens comme d'un vélodrome d'été. Parce que à l'époque, il y avait beaucoup de vélodromes autour de Paris. Non, Buffalo ne marchait plus, mais il y avait le vélodrome de la Croix de Bernie, où j'allais aussi relativement souvent voir des courses de motos. Et puis il y avait le vélodrome de Saint-Denis qui fonctionnait encore. Donc ça ressemblait à un vélodrome, c'est-à-dire une piste en bois relevée, quoi, un anneau de vitesse relevé sur les bords, et puis au milieu un grand espace qui était utilisé par les... Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait au milieu. Il y avait des spectacles, quand je reviens sur les Noëls de la RATP, il y avait des spectacles de clowns, il y avait des spectacles d'acrobates qui s'installaient au milieu de la piste. Et je sais que c'est quand il y avait des matchs de boxe ou des rencontres de catch ou des trucs comme ça, ils installaient le ring au milieu de la piste, enfin au milieu de l'enceinte. Donc c'était cette espèce d'anneau de vitesse en bois. Et c'était extraordinaire pour le gamin que j'étais, c'était de voir bon, déjà le bruit de ces drôles de bonshommes sur ces drôles de machines. Puis les motos de course s'appelaient des stayers. Course derrière grosse moto, c'était des stayers, les conducteurs. Et ils étaient debout sur leur moto, c'est-à-dire c'était des motos qui n'avaient pas de siège, c'était des motos avec un très grand guidon, et ils étaient debout sur les repose-pieds, et derrière la moto, il y avait une sorte de rouleau qui permettait aux cyclistes de venir coller sa roue sur le rouleau et de tourner à la vitesse de la moto, ce qui fait qu'ils atteignaient des vitesses extraordinaires, ils tournaient à 80 km/h. Et ce qui était extraordinaire, c'est que, comme c'était une piste relevée, les cyclistes, c'était comme le mur de la mort à la Foire du Trône, les cyclistes passaient presque à l'horizontale dans les virages, et c'était absolument éblouissant. Alors le son, les couleurs des maillots qui étaient extraordinaires, et ces bonshommes accrochés sur la piste, c'est un souvenir d'enfance absolument sans égal. Est-ce que c'est un lieu mythique? Je crois que le mythe, il est venu après sa disparition. Le vieux, c'est un lieu de... C'était un lieu commun, c'était un lieu de pratique populaire où tout le monde se retrouvait. En plus, c'était un bâtiment qui, même pour les gens qui n'y avaient jamais été, était familier parce que je me souviens d'avoir jamais été voir les 6 jours au Valdiv et avoir vu dans les actualités qu'on voyait au cinéma à l'époque régulièrement. Donc je pense que c'est 2 fois par an, on voyait... Les 6 jours, le Valdiv, le public, Yvette Horner et son accordéon, l'annonceur surtout qui annonçait une prime de 3000 francs est donnée par la société machin pour le vainqueur du prochain tour. En plus, je pense que ça a dû servir pour des meetings, des manifestations, des choses comme ça, et pour des rafles aussi, mais enfin c'est un autre sujet. Mais à part ça, honnêtement, je ne me souviens pas de la date de sa disparition.
Y allez-vous, prenez le métro, vous foncez dans le populo, y a tout là-dedans. Des mécanos, des employés, des aristos, des petites poules parfois qui sont belles. Tout ça, ça descend à Grenelle. Vous avancez et vous lisez sur le fronton, rune et laton, et au-dessus, en lettres vives, Vélodrome d'hiver, mon Valdiv. Valdiv, quand je t'ai vu pour la première fois, il y a combien de ça, je ne sais pas. Mais je sais que je n'étais pas plus haut que ça et que papa me portait sur son bras. Valdiv, quand j'avais pas de soucis pour toi, que je resquillais comme il se doit quand le contrôleur regardait pas. Valdiv, perdu tout là-haut dans les hauteurs, j'entendais les haut-parleurs hurler, attention demi-pont sur une heure, au départ, messieurs les coureurs. Le
Speaker, j'ai débuté avec le mégaphone.
Ah.
C'est-à-dire dans les réunions d'athlétisme, les haut-parleurs n'étaient pas encore inventés.
Ouais.
Et on travaillait au porte-voix, un grand porte-voix en aluminium, et on donnait des résultats comme on pouvait.
Un porte-voix comme ça, par exemple.
C'est ça.
Ben, Berretto, voulez-vous avoir la gentillesse de faire un petit essai?
Eh bien, je vais vous donner les résultats de Paris-Roubaix en 1921. Allô, allô? Le journal Loto vous communique les résultats de Paris-Roubaix. Premier, Henri Pélissier. Deuxième, Francis Pélissier. Troisième, le Belge Sieur. Les 265 km en 9 heures, 2 minutes, 30 secondes.
Et si nous allions au 6 jours maintenant?
Ceux de 1930 gagnés par Charles Pélissier.
Ah, Charles Pélissier, tenez, oui. Les sprints Pélissier dit Paco dans le Tour de France. Charles Pélissier.
Alors, qu'est-ce que c'était le Val d'Ive? Eh bien, le Val d'Ive, c'est quelque chose d'important dans le tissu parisien, aussi bien le tissu matériel que le tissu social.
Marcel Roncaiolo.
D'abord, le Val d'Ive était à proximité du viaduc de Passy et de tout le système de voies qui avait été créé entre Grenelle, le Champ de Mars, et ensuite Versailles, et le Champ de Mars par Javel, et ensuite la liaison jusqu'aux Invalides, au fur et à mesure des expositions universelles. Autrement dit, ça s'inscrit déjà dans, je dirais, l'éphémère qui dure, puisque les expositions universelles avaient ce caractère très particulier que la Tour Eiffel a effacé, puis le Palais de Chaillot, d'être des éléments construits, mais ensuite effacés de la carte presque aussitôt pour être remplacés par d'autres éléments de construction qui correspondraient davantage à la sensibilité d'une autre exposition. Alors là, le Val d'Ive a été construit dans ce croisement, dans ce carrefour finalement, et dans cette espèce d'espace mou qui se maintient dans Paris, mais qui est en même temps un espace fort, tout au moins, à certains moments. Deuxième caractère du Val d'Ive, il est frontière. Il est construit à la frontière d'un quartier qui va s'embourgeoiser et prendre son allure un peu guindée d'immeubles de pierre, c'est-à-dire le quartier que l'on construit à la fin des années 1890, et surtout dans les années 1900, style Belle Époque, et avec de très beaux bâtiments, tout autour du Champ de Mars. Un peu plus au sud, c'est au contraire un quartier qui reste industriel, ou plutôt même qui s'industrialise relativement tard, autour des années 1900. C'est, après les magasins entrepôts qui caractérisaient cette partie de la Seine qui était traitée un peu comme port de Paris. Alors, après ces bâtiments, ces magasins entrepôts, ces dépôts de pavés, par exemple, etc., eh bien, ils sont venus s'installer des industries chimiques et surtout, à partir de 1915, c'est-à-dire un peu plus tard que la construction du Val d'Ive qui date du début des années 1900, les usines Citroën. Et il y a une sorte d'assimilation qui se produit, d'affinité qui se produit entre ce milieu ouvrier, à la fois dans son habitat ouvrier plus ancien et qui continue à se construire un peu anarchiquement pendant la période, les nouvelles industries, et en particulier cette immense industrie de prestige qu'est l'automobile, et d'autre part le caractère du Val d'Ive. Parce que bicyclette et automobile entrent dans le fond dans un même cycle. Elles naissent pratiquement ensemble comme objets d'importance et non simplement comme prototypes. Elles deviennent ensemble des objets de non seulement d'utilisation banale, mais de compétition. Et on peut dire que à ce moment-là, l'automobile est la version bourgeoise, très bourgeoise d'ailleurs, assez peu démocratisée dans ces années 1920, mais enfin qui compte quand même dans le paysage. Et la bicyclette, en quelque sorte, la version prolétarienne et ouvrière. Et je considère que de ce côté-là, le Veldiv, sur le plan ludique, finalement, sur le plan de la compétition, et en particulier avec les courses qui sont organisées régulièrement, symbolise un petit peu la présence de la classe ouvrière parisienne, comme Boulogne-Billancourt, autour de Renault, la représente dans les mouvements sociaux, et je dirais comme pôle essentiel du mouvement social à Paris.
Si ce n'est tout de même, Marcel Roncaillolot, que dans le Veldiv se côtoient les bourgeois et les prolétaires.
Eh bien,
on voit ces images, on revoit encore ces images du restaurant qui était placé en bas, au centre de la piste, où des belles dames et des beaux messieurs suivaient les courses également.
Nous revenons très exactement à cet aspect de frontière que je signalais au départ. C'est ça, le Veldiv. Et justement, un article de 1928 montrait la différence qui s'était produite entre le vieux lieu de distraction sportive, enfin de spectacle sportif et même de jeu sportif, c'est-à-dire l'hippodrome, et le Veldiv. Dans l'hippodrome, les classes auraient été parfaitement séparées. Entre pesage et pelouse, il y avait une différence manifeste totale. Au contraire, dans le Veldiv, il y avait ce côtoiement, si vous voulez, ce côtoiement dans une sorte de spectacle non pas consensuel, parce qu'on a vraiment l'impression que chacun a son compte à soi et que les attitudes ne sont pas les mêmes. On voit en particulier les spectateurs des tribunes, les ouvriers en casquette, bien entendu, très tendus, je dirais faisant presque le même effort que les cyclistes au moment des sprints, levés à moitié de leur siège. Et d'autre part, on voit en même temps, les gens qui, on peut se demander finalement s'ils regardent le spectacle ou s'ils s'offrent un spectacle en train de dîner.
Guylaine Guy, comment se fait-il que vous soyez au séjour ce soir, comme vous y étiez d'ailleurs hier soir et le soir du départ ?
Eh bien, écoutez, depuis que je suis en France, il y a déjà un an, l'année dernière, je suis venue voir les séjours et la reine des séjours était Jacqueline Joubert, qui est la speakerine de la télévision, et j'ai décidé l'année dernière que cette année, je voudrais bien être la reine des séjours. Et c'est pour ça que je suis ici tous les soirs, parce que je voudrais bien décrocher la couronne de la reine des séjours.
Est-ce que vous pourriez me dire, c'est une indiscrétion que je commets vis-à-vis de vous, mais tout de même les auditeurs vont être renseignés, combien de primes vous pensez avoir donné à la fin des séjours ?
À la fin ? Eh bien, écoutez, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de... Il y a une telle bagarre en ce moment avec les primes que... je crois que ça me coûtera très cher. Je crois que dépasser le 1 500 000...
Vous pensez dépasser 1 500 000, c'est-à-dire que
dépasser
vous pensez...
Le
dépasser,
million.
Oui. C'est-à-dire
de
que
francs,
vous...
1 500 000
bien sûr,
de francs.
Bien sûr, pas 1 500 000 $, mais enfin, ça fait tout de même 5 000 $.
Oui, c'est ça.
Et vous pensez qu'après avoir donné 5 000 $ de prime, l'on vous couronnera à la reine des six jours?
Eh bien, je l'espère.
Yvette Horner, les six jours, vous les avez faits, vous aussi, d'une certaine manière.
Oui, en effet, je les ai faits. Il y avait une ambiance extraordinaire, vraiment. Je l'ai fait une dizaine de fois. Ça a été fantastique. Je ne regrette pas de les avoir faits et je regrette qu'ils ne soient pas là. Alors, je jouais, bien entendu, pour dans tous les sprints. Il fallait jouer tous les sprints. Alors, il ne fallait pas jouer quelque slow, là. Il fallait que ce soit vraiment quelque chose de très vif.
Vous restiez les six jours ?
Ah oui. Ah oui, bien sûr.
C'était la nuit et le jour ?
Alors, moi, je faisais, par exemple, de 3 à 5, 7, et puis à partir de 8 heures jusqu'à 2 heures du matin, avec l'orchestre qui se composait de 12 éléments.
Mais pour vous aussi, ça devait être épuisant.
Épuisant, oui, par cette concentration qu'il fallait avoir pour jouer telle ou telle chose et puis faire attention. Alors, le sprint, il fallait jouer en même temps une chose rapide pour eux. Et puis, dès que le sprint était terminé, bon, il fallait s'arrêter, etc., pour laisser parler Berretro, pour annoncer la prime et tout ça. Alors, j'avais lancé une de mes compositions qui s'appelait « La marche des mineurs ». Et je jouais la marche des mineurs. Alors ça donnait taradan, dan, 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 pi, dan, dan, di. Oi, oi, tout le monde criait comme ça. C'était fantastique.
Il y a eu autour du vélo, et en particulier autour de ce cyclisme fermé, finalement, d'hiver, qui s'est constitué, quelque chose d'important. En effet, une raison d'attractivité et de centralité qui est importante et qui ne peut pas être négligée dans la vie parisienne.
Qu'on a ensuite décliné sous des formes totalement différentes, puisque autour et après le vélo sont venus se greffer au Veldiv les matchs, les combats de boxe, les matchs de hockey sur glace, enfin je ne sais plus, il y a eu tous les sports possibles et imaginables.
Bien entendu, mais je dirais que socialement, et par rapport à justement aux spectateurs, alors populaires, aux casquettes et non pas aux gibus ou aux chapeaux melons, par rapport aux casquettes, c'est quand même le mettons à part la boxe, mais c'est quand même le vélo qui était, je dirais, le sport le plus proche de cette mentalité ouvrière, scrupuleuse, de mécanicien. Il y a toujours eu ces coureurs cyclistes, si vous voulez, qui étaient autant des fabricants de vélos ou des adaptateurs de vélos que des sportifs. Et je crois qu'il y a là un lien, quelque chose qui a disparu maintenant dans notre société, justement, et qui était quelque chose de très, très fort. Et il ne faut pas oublier quand même que le cyclisme sur piste, à ce moment-là, réunissait à la fois des spectateurs et des compétiteurs de premier plan, et que la France était au premier rang des nations cyclistes de piste, ce qu'elle est redevenue d'ailleurs depuis quelque temps. Mais enfin, c'est là qu'il y avait les grands hommes du sprint, comme Girardin, c'est là qu'il y avait les grands hommes de la course de demi-fond. Alors là, c'était encore mieux, parce que ce n'était pas seulement le vélo qui intervenait, mais c'était ces grosses motos qui étaient des monstres, enfin, dont le bruit même, enfin, était le bruit de la mécanique. Enfin, là, on se rappelle Advax, c'est-à-dire ce fait que la classe ouvrière, même dans ses jeux, retrouve dans le fond les bruits qui sont les bruits de son travail. Il y a le moteur, on sait.
Au Vélodrome d'hiver se déroule le gala de bienfaisance organisé au profit des œuvres sociales des gardiens de la paix, des sapeurs-pompiers et de la Légion de la Garde. La rétrospective des tambours de l'Empire.
Pour protester contre les mesures fiscales qui frappent ses adhérents, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises a décidé une grève de quelques heures de tous les commerçants de Paris. Dans le même temps, M. Léon Gingembre déclarait au Vélodrome d'hiver:
aujourd'hui, la masse des professionnels organisés déclare la guerre à la superfiscalité qui tue l'économie en freinant la productivité, engendre la vie chère.
Dans tous les villages de France, on parlera de la fête du Veldiv. Madame Eugénie Coton, présidente de l'Union des femmes françaises, ouvre le congrès. Ce sont pour leurs enfants, pour leur foyer, pour les enfants de toute la terre, que travaillent, que vibrent, que luttent ces 2500 délégués.
À la manifestation principale qui se déroule au Vélodrome d'hiver, vous allez assister grâce au radio-reportage de Georges Vicard que vous allez entendre. Voici le Vélodrome d'hiver.
D'où viennent ces voix d'enfants fraîches et pures? Eh bien, ce sont, mes chers auditeurs, en intermède au congrès de la JAC qui réunit 25 000 jeunes paysans sous la verrière du Palais des Sports ou Vélodrome d'hiver, suivant le nom qu'on voudra lui donner. Ce sont donc, dis-je, les petits chanteurs de la manécanterie de la cathédrale de Nantes qui viennent en intermède à ce congrès nous distraire quelques instants de nos terrestres préoccupations.
C'est avec la guerre, je crois, que le Veldiv s'est mis à avoir d'autres activités, c'est-à-dire qu'on s'en est servi, par exemple, pour des meetings.
Non, bien avant la guerre. Ah, oui. Bien avant la guerre, vous avez des photos très denses, enfin très nombreuses, du Veldiv utilisées par les grands partis, mais souvent les grands partis de gauche et les partis populaires, par exemple, pendant toute la phase qui a préparé le Front populaire. Le Veldiv est un des hauts lieux du Front populaire. Et donc, c'est un lieu d'histoire au sens politique du terme. Et là aussi, cette histoire, qui se prolonge d'ailleurs même jusque dans les années de 1950, ne doit pas être perdue. Autrement dit, il faut reconstituer toute cette histoire politique et symbolique en même temps.
Un orchestre joue des marches allègres au pied d'une grande tribune blanche. Les drapeaux tricolores servent de fond à l'estrade centrale, où en grandes lettres, trois mots se détachent. LVF, c'est-à-dire Légion des volontaires français. Mais les projecteurs s'allument. Le silence se fait dans la salle. Les orateurs des partis unis montent sur l'estrade.
Il y a un vieux proverbe français qui dit jamais deux sans trois. J'espère, j'ai la foi, dans un jour prochain, les deux chefs d'État français et allemands s'entendront.
Tout de suite avant 80, l'année 1980, il m'arrivait de parler du Veldiv et pour certains, notamment des jeunes, Veldiv ne signifiait absolument rien du tout. Et même, j'avais été dans une organisation d'anciens déportés et j'avais parlé du Veldiv et on ne savait pas l'écrire. C'est quelque chose qui, pour beaucoup, ne signifie absolument rien.
Arrestation opérée lors des rafles des 16 et 17 juillet 1942. Hommes, 3031. Femmes, 5802. Enfants, 4051. Rapport du SS Obersturmführer Röttke à ses supérieurs, 18 juillet 1942.
Regardez bien cette grille. D'abord parce que vous ne la verrez plus. Ensuite et surtout parce qu'elle se ferme sur un chapitre d'histoire de France. Paris, si inconséquente, qui avait déjà rasé Luna Park et brûlé les Tuileries, livre aujourd'hui aux démolisseurs la Nefilbus. La verrière légendaire connue sous le nom de Palais des Sports, mais que les gens de la famille appelaient depuis longtemps Veldiv.
Marcel Roncaiolo, quand on se promène aujourd'hui du côté de la rue Nélaton, on ne voit pas grand-chose.
Non, la rue Nélaton est marquée, d'ailleurs marquée dans les cartes historiques de Paris, comme une rue construite fin 19e siècle, dans le style d'enfant Belle Époque. Mais à part ça, on ne trouve pas d'autres indications. Et sur place, on se heurte à une construction dite moderne, des années 1950-1960, mais qui est plutôt incohérente, difficile à identifier, et qui comble l'îlot, mais très inégalement.
Vous ne trouvez pas ça curieux que le Veldiv a disparu, il a été détruit, ce sont des choses qui arrivent, mais il a plus qu'été détruit, il a vraiment été littéralement englouti.
Ah, il a été effacé, très exactement effacé, et en particulier dans les noms des cafés et des bars qui sont autour, on ne trouve aucune allusion au passé antérieur, je dirais, du Veldiv, et à ce qu'il a été d'abord dans la vie sociale parisienne. Et alors que, par exemple, sur la place de la Porte de Saint-Cloud, on voit très bien que les installations sportives qui ont été maintenues dans les années 1960 continuent à être proches d'un certain nombre de cafés ou de brasseries qui portent le nom de sport, enfin, etc. Donc, vraiment, là, c'est effacé, gommé. Au point que j'avais fait le tour dans le mauvais sens, je dirais, et que je désespérais de trouver la plaque en me disant que je me suis peut-être trompé, enfin, etc. C'est curieux.
On a le sentiment très fort, quand on s'intéresse au Veldiv, que l'événement est resté et qu'il a effacé tout le reste. C'est-à-dire un événement est resté qui a effacé un lieu et qui a effacé la mémoire antérieure.
C'est très exactement ce que je voulais vous dire, c'est que il y a des événements qui sont gravés dans le territoire parisien, sur le territoire parisien, dans ces monuments, comme on dit, ou même simplement dans des lieux sous forme de statues, sous forme de plaques, sous forme de souvenirs réels, matériels, qui ont conservé, je dirais, à la fois un événement et d'autre part l'importance du lieu comme lieu de rencontre, comme lieu d'agitation, comme lieu de fréquentation, comme lieu attractif ou comme lieu répulsif, peu importe. Je me souviens que quand j'étais jeune, on allait encore se recueillir devant le mur des fusillés du Père Lachaise. Tandis que là, pour le Veldiv, on a l'impression que l'événement s'est greffé lui-même, enfin celui de l'événement du 17 juillet 1942, sur un lieu qui, lui aussi, a été non seulement rayé de la carte, mais rayé en grande partie des mémoires, non pas tellement dans son existence, mais dans sa localisation.
Allez, les enfants.
Maintenant, posez les valises.
Ça vous prépare.
Posez vos valises sur la plateforme.
Paris, le 13 juillet 1942. Préfecture de police, direction de la police municipale, état-major, premier bureau A. Secret. Circulaire numéro 173, 42.
Qu'est-ce qui se passe ici?
Je fais la guerre des 14, la vraie, il n'était pas encore né.
Et des circonscriptions d'exécution. Chaque Israélite, homme et femme, a arrêté, fait l'objet d'une fiche. Ces fiches sont classées par
arrondissement.
Des pauvres gens.
Vous dirigerez alors les autobus restants sur le vélo de l'hiver. Vous affecterez à chaque autobus une escorte suffisante. Les glaces de la voiture devront demeurer fermées et la plateforme sera réservée aux bagages. Vous rappellerez aux équipes spéciales d'arrestation en leur en donnant lecture les instructions de travail des équipes spéciales. Les inspecteurs et gardiens constituant les équipes spéciales d'arrestation prendront leur service aux centrales de l'arrondissement désigné le 16 courant à 4h du matin. Ils effectueront leur service.
On va vous installer à Dublin. Vous gagnerez après la guerre votre visite par ici.
Matériel. La compagnie du Métropolitain, réseau de surface, enverra directement les 16 et 17 juillet à 5h aux centraux d'arrondissement où ils resteront à votre disposition jusqu'à fin de service. Premier arrondissement, un autobus. Deuxième arrondissement, un autobus. Troisième, trois autobus. Garde du vélodrome d'hiver. La garde du vélodrome d'hiver sera assurée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par la gendarmerie de la région parisienne et sous sa responsabilité.
J'ai su par la suite que c'était un lieu sportif, pas seulement sportif, où il y avait les courses cyclistes les 6 jours, et quelquefois, oui, dans les actualités, mais enfin, j'ai peut-être été une ou deux fois au cinéma avant cette date. On montrait des événements, des présentations de vedettes. Je crois qu'il y avait la fête le bal des petits lits blancs, des choses comme ça, des rassemblements qu'on montrait aux actualités. Et puis des combats de boxe aussi. Mais j'en avais jamais entendu parler.
En revanche, la rafle, vous y étiez?
Oui, à la rafle, oui, bien sûr, j'étais arrêtée ce matin-là avec trois de mes frères et ma mère. Mais deux de mes frères, les plus âgés, c'est-à-dire qui avaient 10 et 11 ans, ont pu s'échapper dans le premier lieu de rassemblement qui n'était pas très loin de notre domicile dans le 20e arrondissement. Et les autres ont été donc transportés par les autobus jusqu'au Veldiv.
Vous avez des souvenirs ? Vous aviez quel âge, Annette Müller ?
J'avais 9 ans. Ah oui, j'ai eu des souvenirs très précis, oui, tout à fait précis, de ce jour et aussi de l'atmosphère de la veille. Apparemment, les adultes sentaient qu'il allait y avoir quelque chose qui allait se passer. Donc il y avait une atmosphère d'inquiétude, mais ça faisait déjà quelque temps qu'il y avait cette atmosphère d'inquiétude, puisque beaucoup de autour de nous, de jeunes hommes disparaissaient. Mon père, lui, il venait, il disparaissait, il revenait. Donc il savait qu'il allait y avoir une rafle, mais ils n'ont pas pensé une minute que ça concernerait les femmes et les enfants. On pensait que ça allait être comme ce qui avait été jusqu'à présent, enfin jusqu'à cette date-là, des rafles d'hommes et de jeunes hommes. C'était la première fois qu'il y avait une rafle où on a pris les femmes, les enfants, les vieux, enfin les malades, un peu tout le monde.
Les policiers sont arrivés chez vous le matin ?
Les policiers sont venus de très très bonne heure le matin. Ils ont tapé à la porte d'une manière très brutale. Ça nous a réveillés en sursaut. Alors il y en avait deux, un qui était en civil, je me souviens parce que c'était des imperméables beiges. L'autre, il était en uniforme, mais j'ai pas le souvenir. J'ai davantage le souvenir de l'inspecteur en civil. Et puis ça a été tout de suite une atmosphère de pagaille, de tiroirs ouverts, de précipitation. Je me souviens que j'ai eu pendant des années et des années que je cachais une terrible honte, parce que j'avais beaucoup d'admiration pour ma mère. Elle avait 33 ans à l'époque, qui avait une certaine autorité. Et je l'ai vu d'un coup se jeter aux pieds des policiers, pleurer, supplier qu'on laisse ses enfants, qu'on les épargne. Et je comprenais pas pourquoi elle s'humiliait de cette manière, surtout que j'ai vu qu'il la repoussait avec le pied en lui disant de pas leur compliquer la tâche, que bon, ils avaient pas de temps à perdre. Ça m'avait énormément frappé, cette violence d'un coup, et puis même par la suite au Veldiv, c'était la première fois que je voyais des adultes en état d'infériorité. C'est assez violent comme impression pour un enfant, un jeune enfant.
L'arrivée au Veldiv, vous vous en souvenez ?
D'abord, on nous a pas tout de suite conduit au Veldiv. On nous a d'abord amené dans une espèce de grande salle qui était pas très loin de là où on habitait, rue de l'Avenir. Et là, il y avait une pagaille incroyable. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de grandes tables, des gens qui vomissaient, des vêtements, des gens pris de convulsions. Enfin, il y avait. Et c'est dans cette atmosphère un peu de folie que mes deux frères ont pu s'évader. D'ailleurs, dans la rue, je me souviens quand on a été jusque-là, puisqu'on y a été à pied, j'ai vu beaucoup de policiers dans les rues du 20e, de policiers qui poussaient des femmes avec des enfants pour les faire marcher plus vite. Alors, on portait, oui, parce que nos affaires, ils nous avaient dit de préparer les affaires. Et ma mère avait mis beaucoup de choses tout ce qu'elle pouvait mettre dans un drap. Et c'était des sortes de baluchons. Et dans la rue, je voyais beaucoup de gens, de femmes notamment, surtout des femmes avec des baluchons sur l'épaule et puis qui étaient poussées par les policiers. Donc on est arrivé là. Et après, mes deux frères sont partis en portant un baluchon pour avoir l'air d'aller au lavoir s'ils avaient été interceptés. Et nous, on est montés dans les autobus et on a été jusqu'au Veldiv. L'arrivée au Veldiv, je ne m'en rappelle pas du tout. Je ne sais pas du tout comment ça s'est passé. Ce que je me souviens, c'est qu'on a été installés sur des gradins. Il y avait énormément de bruit, de bousculade. On était serrés les uns contre les autres. Il y avait des globes au-dessus de nos têtes de lumière toujours allumée. Et j'avais ce sentiment bizarre que quand les globes allaient s'éteindre, à ce moment-là, j'aurais droit à un spectacle. J'attendais qu'un spectacle commence parce que j'avais déjà été dans un cirque. Ça ressemblait à un cirque où j'avais déjà vu un spectacle et j'attendais que la lumière s'éteigne. Et alors là, bien, on pataugeait très rapidement dans les excréments. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas à manger. C'était surtout ce que je me souviens, c'était qu'il y avait des haut-parleurs qui sans arrêt lançaient des noms. Alors c'était un brouhaha et les gens qui étaient tendus vers ces noms, parce que je suppose que ces noms, ça signifiait que peut-être certains, des femmes de prisonniers ou autres, comme les gens avaient été ramassés un peu n'importe comment, peut-être que ça signifiait qu'ils allaient sortir que ces gens allaient sortir de cet endroit-là. En fait, je crois par la suite que j'ai compris que c'est parce qu'on nous a fait partir par vagues successives dans les camps du Loiret, Pithiviers et Bonne-la-Rolande. Alors là-dessus, moi, je suis tombée tout de suite assez malade. Et on m'a transportée, enfin, ma mère et mon petit frère m'ont accompagnée, jusqu'au terre-plein du Veldiv, où il y avait l'infirmerie, enfin, une sorte d'infirmerie, c'est-à-dire des gens étalés par terre. J'ai reconnu des gens que je connaissais, d'ailleurs, dont un homme qui était tout nu, alors que je l'avais toujours vu dans la rue à côté de chez nous, toujours entouré du respect de ses enfants. Ça me frappait beaucoup. Et là, il était tout blanc, tout nu. C'était vraiment des choses que j'avais jamais vues de ma vie. Et donc là, j'ai été mise, enfin, avec mon frère et ma mère, dans une sorte de petit box. Il y avait une autre femme, mais qui était immobile. Est-ce qu'elle était morte? Est-ce qu'elle était mourante? Je ne sais pas. Elle n'a pas dit un mot. Et au bout d'à peu près une semaine, parce que les malades étaient les derniers à partir, on a été transportés jusqu'à Bonne-la-Rolande.
Vous êtes resté une semaine donc dans le Veldiv.
6 jours, hein. Oui.
Sans nourriture du tout.
Je me souviens juste d'une distribution, parce que ça devait être, c'était assez bon, où on a reçu une madeleine et une sardine à la tomate. Mais alors tout le monde était... J'ai entendu dire par la suite qu'il y avait autre chose, mais il y avait tellement de pagaille, de bousculade, que je ne vois pas de quelle manière les gens pouvaient se nourrir. On avait surtout, ce que je me souviens, c'est de la soif, parce qu'il n'y avait pas d'eau.
Est-ce que les gens bougeaient? Il y avait des va-et-vient ou est-ce qu'ils restaient...
Ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas de bouger, de d'osciller. Enfin, c'était... j'avais l'impression que ça, et notamment les enfants, il y avait les haut-parleurs qui criaient après les enfants parce que les enfants n'arrêtaient. Vous savez, le Veldiv est incliné pour les courses et les enfants s'amusaient à courir sur ces pentes et redescendre. Les enfants jouaient, ils voulaient jouer, et donc les haut-parleurs criaient qu'il fallait que les enfants restent tranquilles, qu'ils ne bougent pas. Enfin, empêcher un enfant de bouger, c'est difficile.
Vos papiers.
Le cri du peuple.
le Parti populaire français et le Cri du peuple avaient réclamé que les Français ne soient plus exposés dans les cafés, restaurants, théâtres et cinémas au voisinage déplaisant de la faune étoilée. C'est fait. Monsieur Lévy ne nous entourera plus de sa frauduleuse fumée provocante à la terrasse du café où il étalait sa personne repue. Le jeune Bloch ne se livrera plus dans l'ombre du cinéma à des manifestations sans danger dont pouvaient pâtir les autres spectateurs. Mademoiselle Cohen n'étalera plus sur les planches de la piscine son impudique chair huileuse dévoilée par un maillot sans étoiles. La femme Brunstein ne paradera plus sur les marchés publics, exhibant son filet chargé à craquer de denrées introuvables pour les ménagères françaises. Cette mesure va certes causer un tort sérieux aux restaurants du marché noir. Qui s'en plaindra? En tout cas, ce ne sera pas nous. 15 juillet 1942.
L'arbitre n'a pas pu compter jusqu'à la fin. Nous arrivons à la fin de la deuxième reprise. Est-ce qu'il va reprendre le combat? Il se relève en ce moment, titubant, ayant perdu la raison et l'équilibre. Mais je laisse avant aller le soin de vous décrire calmement le round.
Marcel Cerdan, au cours de cette reprise, a infligé plusieurs knockdowns à Hassan Diouf. Mais néanmoins, nous estimons qu'il a eu tort de se presser. Il s'est un peu trop énervé après les deux premiers knockdowns d'Hassan Diouf.
Ce mouvement d'oubli, il ne s'est pas fait immédiatement. Par exemple, après-guerre, le Veldiv a quand même été encore extrêmement utilisé. Il a continué à y avoir des compétitions sportives, il a continué à y avoir des réunions, des meetings politiques. Il y a même eu, fait quand même assez extraordinaire, en 1948, les Juifs de Paris se sont réunis au Veldiv pour fêter la création de l'État d'Israël.
Oui, mais je crois que le Veldiv conserve ce caractère. Je dirais, c'est normal. Mais si vous voulez, ce qui faisait le cœur même, la justification en quelque sorte du Veldiv, c'est perdu quand même. C'est-à-dire qu'on continue à utiliser, on continue à utiliser les lieux. Et au moment de la création de l'État d'Israël, c'était presque une revanche, je dirais. Mais en même temps, les lieux perdent de leur existence réelle dans la mémoire, dans la mesure où les groupes sociaux qui sont porteurs de cette mémoire perdent aussi leur existence propre, je dirais leur forme caractéristique de référence. Et je crois que ça, c'est le déclin du Veldiv est quand même significatif de la transformation totale de ce que l'on appelait la classe ouvrière et des classes populaires, de l'individuation, etc., etc.
Déclin dû au déclin social d'un groupe, mais effacement, on ne le redira jamais assez, dû sans doute vraisemblablement à un événement qui fait tache.
L'événement fait tache, mais je dirais que je ne sais pas dans quelle mesure c'est l'événement qui a entraîné la démolition du Veldiv.
On ne peut pas le savoir.
Non, peut-être qu'en cherchant un peu, et ça mériterait, je crois, la démarche. On peut considérer que la destruction du Veldiv entre dans la vision que l'on a de Paris pour la planification urbaine et la modernité installée dans Paris, puisqu'on a l'impression que la ville ne correspond plus aux besoins, qu'il convient à la fois de l'aérer, de construire plus haut pour pouvoir loger beaucoup plus de gens. Autrement dit, ça entre en plein dans l'idée que l'on va à la rigueur conserver, sauvegarder, ça devient plus sérieux avec Malraux, le centre de Paris, mais qu'inversement, les arrondissements périphériques seront les lieux de la modernisation et de la modernité. Et par conséquent, normalement, par sa position, je dirais, si vous voulez, le Paris qui change menace le Veldiv. Alors le Veldiv semble disparaître sans que l'on se pose le moindre problème.
Et l'effacement, cet effacement d'un monument, puisque c'en était un.
C'était un monument, c'est pas un monument au sens esthétique du terme. Maintenant, je suppose qu'on le conserverait. Alors si le Veldiv n'a pas été reconstruit sur place, il y a des justifications qui ont été apportées, donc je ne sais pas si elles sont exactes ou si elles sont simplement liées au profit plus important que l'on pensait en tirer en le transformant, c'est que ça coûterait trop cher de le moderniser. Il y a certainement des arguments qui apparaissent plus ou moins logiques. Mais je crois, et je retourne à l'urbanisme, parce que c'est très important, c'est comme ça que s'efface la mémoire, si vous voulez. Tout au moins, c'est comme ça que s'efface le rapport entre les hommes, la mémoire et le lieu. Je crois qu'il y a eu surtout une opération, enfin, je ne dis pas d'urbanisme, parce que l'urbanisme se veut régler à la rigueur réfléchie, mais il y a eu une opération de construction nouvelle, de destruction par conséquent du passé, sans le moindre scrupule de conserver, si vous voulez, d'une manière quelconque, cette mémoire. Il se peut d'ailleurs que l'affaire du 17 juillet 1942 est plutôt poussée à tout effacer qu'à laisser un petit quelque chose qui aurait rappelé cela.
Le Veldiv, ça serait devenu un non-lieu de mémoire.
Exactement. Il y a trois choses qu'il faut regarder. Physiquement, il n'existe plus rien. C'est un non-lieu. Et même pour y aller et pour s'y reconnaître, bon, il faut faire la petite enquête que j'avais faite hier. Et pour tout dire, la plaque qui est très bien rédigée et qui tire même un petit coup de chapeau aux habitants qui avaient aidé les Juifs qui étaient entassés là-dedans, qui en avaient sauvé quelques-uns, qui en avaient ravitaillé d'autres. Mais même enfin avec ses bons côtés, je dirais sa modestie, cette plaque me semble très peu lisible d'abord. Et ensuite, en retrait, enfin, ça ne me semble pas quelque chose qui soit un signal, si vous voulez. Qu'on ait marqué là, enfin, le désir quand même de dire sur place quelque chose, c'est évident, mais qu'on en fasse un signal, non, c'est modeste, c'est presque, j'allais pas dire enterré, parce que c'est sur un petit tumulus, mais c'est enfoncé, je dirais, dans ces bâtiments. Et tout le reste de la mémoire du Veldiv, il n'y a que cette mémoire-là qui subsiste parce que, pour de multiples raisons, on ne pouvait ne pas la marquer dans Paris, mais tout ce qu'était le Veldiv avant est effacé.
Que sont-ils devenus? Oui, que sont devenus les champions que nous applaudissions, se demandent parfois les plus de 40 ans. Ainsi, Martin Pla, qui fut il y a quelques 10 ans champion du monde professionnel de tennis, nous le retrouvons à Steroal. Qu'est devenu Guillemot, champion olympique des 5000 mètres en 1920 à Anvers devant le prestigieux Nurmi? Il évolue lui aussi dans le cadre des Halles, et d'aucuns affirment qu'il est dur en affaires. Le Bordelais Routis était champion du monde des poids plumes en 1928. Maintenant, il accueille une clientèle éminemment sportive dans son bar non loin du Veldiv.
Antonin Magne a été l'un des célèbres champions cyclistes.
Jamais la rafle n'est venue dans le souvenir qu'on pouvait avoir du Veldiv. Sans, c'était pas un tabou familial du tout. Mes parents étaient ni collaborateurs, ni résistants, ils étaient comme, un peu comme 80% des Parisiens. Mais le Veldiv n'avait aucune connotation, aucun mauvais souvenir attaché à cette... Alors, est-ce que c'est parce que l'épisode était très peu connu, ou est-ce que c'était une sorte de tabou collectif? Je ne sais pas du tout l'importance que ça avait pu avoir à l'époque. En tout cas, c'était le Veldiv. Un endroit de sport, de rencontres, de fêtes, mais absolument pas un soir de rafle et de un futur camp de concentration.
Et quand vous l'avez appris, vous vous souvenez de ce que ça vous a fait?
Je l'ai appris très tardivement, à l'époque du film de Lozay, ou peut-être un petit peu avant, quand je m'intéressais à l'histoire de la collaboration. Oui, ça m'a fait... ça m'a fait un peu drôle, effectivement, d'être venu voir des coureurs cyclistes 10 ans après la grande rafle. Mais c'était deux choses différentes, comme si ça ne s'était pas passé à cet endroit-là, comme si il n'y avait pas de fantômes qui hantaient l'espace, parce que c'était deux choses différentes, deux moments différents, deux activités différentes, et j'ai pas fait la relation entre l'un et l'autre, effectivement.
Vous ne la faites toujours pas?
Non, je ne la fais toujours pas. J'ai les images du film de Lozay dans la tête, Delon accroché à sa grille et tout ça. Et puis, parallèlement, mais c'est des images de fiction, c'est pas même... je vois pas de photos là-dessus. C'est des images de fiction, c'est comme si ça aurait pu se passer au Parc des Princes ou à Jambon, etc. Et puis, de l'autre côté, mes propres images de mon Veldiv à moi, de la fête, du bruit, des clowns et des coureurs cyclistes, mais je fais pas la connexion entre les deux. Ce sont deux choses différentes.
Viens, ma petite reine, au bord de la Seine, allons à Bercy.
pour voir pédaler les champions dans les sioux de Paris. Tu es aussi belle qu'au temps de Grenelle, c'est moi qui te le dis. Même si le Veldiv a changé de rive, c'est reparti.
Paris, Paris aura son nouveau Veldiv après tant de réclamations. Voici qu'il vient, autrement dit son nouveau vélodrome d'hiver à la place des entrepôts de Bercy. Le complexe sportif sera ouvert en 1983 et, comme l'a expliqué son commissaire à la construction, Maurice Doublet, qui a reçu sa chance bonjour, les possibilités du nouveau Veldiv seront très très longues.
Quand vous parlez aux gens du Veldiv, ils vous répondent soit par la rafle, soit par le passé sportif, mais il y a une impossibilité à rassembler les deux dans la mémoire des gens.
Et oui, à rassembler même les trois avec le passé politique, qui me semble très important. Ouais. Et précisément parce que ce qui est important dans un lieu, dans un monument, et ce qui fait la stratification des mémoires, c'est-à-dire que d'une génération à l'autre, on peut passer d'une mémoire, je dirais, qui a périclité, mais qui est maintenue quand même, qui a périclité en tant que mémoire vivante, mais qui est conservée, et quand même qui est transmise à une mémoire plus actuelle, c'est que le lieu, dans le fond, permet cette reconnaissance. Et quand vous êtes au Louvre, eh bien, on vous montre quand même le donjon de Philippe Auguste, par exemple, maintenant. Autrement dit, on reconstitue, si vous voulez, des mémoires. Le lieu amène cette grande qualité, si vous voulez, qu'a l'espace construit, de pouvoir se charger de mémoires successives différentes. Alors, je crois que là, la Bastille, vous voyez, il n'y a plus la Bastille, si vous voulez. Mais quand même, on a conservé sur le sol la trace, le plan de la forteresse. Et d'autre part, il y a un monument relais qui est le génie de la Bastille. Et là, il n'y a plus rien pour s'accrocher. Et je crois que quand il n'y a plus rien pour s'accrocher, on en est d'une part à l'oubli total du lieu. Et les Parisiens ne savent sans doute même plus que c'était dans le 15e arrondissement. Il y a la défection, si vous voulez, de la mémoire et surtout de l'enchaînement des mémoires. Et ce sont des mémoires partielles, ponctuelles, non localisées. Et alors finalement, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le travail de l'historien.
Devant ce non-lieu, on se retrouve avec la difficulté qui est que chacun arrive avec sa mémoire et qu'il n'y a plus de possibilité de rassembler, de réunir ces mémoires différentes.
Alors, aucune mémoire n'est représentée et à plus forte raison, la relation qui peut être pathétique entre les mémoires ne peut pas s'établir. Mais moi, personnellement, je trouve que de passer d'un lieu ludique, qui était un lieu de joie finalement, et d'expression collective de la joie, qui était un lieu de combat et d'expression collective d'un combat politique, à quelque chose qui était beaucoup plus malheureux, enfin, quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire ce début de la déportation et cette rafle, il y a une sorte de contradiction, enfin, qui en elle-même est une tragédie. Le rapport entre ces mémoires est en lui-même une tragédie.
Irréconciliable.
Je ne sais pas, enfin, je crois qu'il faut montrer l'irréconciliable souvent. C'est la ville, c'est ça, hein. La ville ne doit pas être consensuelle, molle, c'est-à-dire se dire il ne s'est rien passé si ce n'est des choses heureuses et des choses belles. Alors là, on tombe dans le mauvais côté du monument. Mais je crois que le monument, même s'il n'est pas énorme, s'il n'est pas un très grand signal, mais le monument qui peut montrer justement cette ambiguïté des lieux, le passage du bonheur au malheur dans des formes extrêmes, je crois que ça a quand même une certaine valeur morale.
Le Veldiv avec Marcel Rancaiolo, Annette Muller, Lucien Logette et Yvette Horner. Texte lu par Jean-Claude Dauphin. Archives rassemblées grâce au concours de Martine Auger à l'INA, de Caroline Bouet au Forum des Images et de Madame Alperine au Centre de Documentation Juive Contemporaine. Une émission proposée par Ruth Stegassi, groupe de réalisation Bernard Laniel, Pierrick Charles et Anna Schmuck. Thank you.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 24 juin 1999.
Dis-moi à quoi te sert le souvenir d'hier. Pour ça, il te suffit de revivre aujourd'hui. Imaginez demain, après tout, ça ne sert à rien, c'est demain. Le présent prend pourtant des accents dangereux. Quand il est prononcé par tous ces gens heureux, ceux qui vivent en grand, toutes les joies, tous les tourments sur l'écran. Solitude, habitude, élude les chagrins. Et la vie, la vie, la vie, le quotidien. Quand l'horaire et le temps se confondent et depuis longtemps ne font qu'un. Dis-moi à quoi te sert le souvenir d'hier. Pour ça, il te suffit de revivre aujourd'hui. Rêver d'une autre vie, pourquoi pas, quand le rêve aussi, c'est la vie.
Ba-da-ba-da.